soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui chaque semaine aborde en moins de 10 minutes une question en lien avec les technologies numériques et informatiques qui se trouvent dans nos administrations, dans nos villes et dans nos poches et qui nous promettent un avenir smart, même si l'on ne sait pas trop ce que cela veut dire. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé notre histoire des moteurs de recherche en nous intéressant aux robots d'indexation qui ont révolutionné la recherche en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir que les technologies développées pour répondre aux requêtes des utilisateurs classifient le web afin de définir les pages qu'il faut mettre en priorité dans les résultats affichés. Ces algorithmes des moteurs de recherche qui hiérarchisent le web ne sont pas neutres et véhiculent une certaine image de la toile. Alors, de quoi parle-t-on ? Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la croissance très rapide du nombre de sites web a rendu de plus en plus difficile le travail des moteurs de recherche. Ces derniers se sont appuyés sur des robots d'indexation pour que les recherches se fassent sur une base de données la plus représentative possible du web. Mais la masse de ces données entraîne une autre difficulté. Comment renvoyer à l'utilisateur les réponses les plus pertinentes par rapport à sa requête ? À partir de 1996, des chercheurs ont commencé à repenser les sciences de la recherche d'information en s'appuyant sur une des spécificités du web dont nous avons déjà parlé, les liens hypertextes. Je vous avais expliqué que le web est une toile composée de pages reliées entre elles par des liens baptisés hypertextes. Vous voyez de quoi je parle. Ces liens sont souvent représentés par un texte en surbrillance ou un bouton et permettent d'ouvrir une nouvelle page web lorsque l'on clique dessus. Par exemple, vous avez un blog sur la politique française et vous y insérez un lien vers le site de l'Élysée. Bref, à la fin des années 90, John Kleinberg, un chercheur travaillant dans les laboratoires d'IBM, a mis au point un algorithme pour optimiser les réponses aux requêtes en utilisant ces liens hypertextes. Son idée était la suivante. Lorsque plusieurs pages web contiennent des liens vers une autre page, cette dernière est considérée comme une autorité. Et les pages contenant des liens vers cette page autorité sont alors considérées comme des hubs. Cet algorithme fut baptisé HITS, pour Hyperlinked Induced Topic Research, c'est-à-dire recherche thématique induite par hyperlien. HITS fut utilisé par plusieurs moteurs de recherche dans les années 2000, mais dans un même temps, les chercheurs continuaient à améliorer l'algorithme. Larry Page et Sergey Brin, tous deux doctorants à l'université Stanford, se sont inspirés du travail de Kleinberg pour établir un algorithme qui donne une valeur d'importance à chacune des pages du web. Autrement dit, chaque hyperlien est considéré comme un vote en faveur de la page vers laquelle il pointe. Par répercussion, les pages ayant beaucoup de votes se voient attribuer un vote d'une plus grande valeur. Par exemple, si plein de blogs politiques ont des liens vers les pages de l'Élysée, l'algorithme va considérer que le site de l'Élysée a une plus grande valeur. Alors, si ce site comprend des liens vers d'autres pages, comme la page web du Grand Débat National par exemple, elle bénéficiera d'un vote très fort et donc d'une valeur plus grande. Une fois cet algorithme de détermination de la valeur intégré à un moteur de recherche, la requête entraîne des résultats qui sont classés en mettant en avant les pages ayant le plus de valeur. Plutôt que de faire un acronyme tiré par les cheveux comme son prédécesseur, Larry Page a modestement appelé son algorithme PageRank, littéralement classement de page. Et en 1998, avec son collègue Sergey Brin, que j'ai mentionné tout à l'heure, ils fondent une entreprise pour exploiter leur moteur de recherche, Google. La suite de l'histoire, on la connaît un peu mieux. Google offre des réponses qui répondent beaucoup mieux aux attentes des utilisateurs et détrône progressivement les autres moteurs de recherche. Sa part de marché en 2018 dépassait les 90%. Mais réfléchissons un instant. Une question bête. C'est quoi un algorithme ? Alors, ça fait scientifique comme nom, mais au départ, c'est une définition simple. C'est une suite d'instructions précises qui permet de résoudre un problème. Il comprend des entrées, des instructions et un résultat. L'exemple le plus simple, c'est la recette de la pâte à crêpes. Premièrement, versez 300 g de farine dans un récipient. Deuxièmement, cassez 3 œufs à l'intérieur du récipient. Troisièmement, mélangez le contenu du récipient avec un fouet et en même temps, versez 60 cl de lait. Dans cet algorithme, vos entrées sont les ingrédients, farine, œuf, lait, et les outils, récipient, fouet. Vos instructions sont verser, casser, mélanger. Et le résultat, la pâte à crêpes. En revanche, mon exemple a une faille, car un algorithme doit être non ambigu. Pour avoir un véritable algorithme, il faut être beaucoup plus précis. Sur la taille du récipient, la durée de chaque action. Dans une exécution rigoureuse, on retrouverait les coquilles d'œufs dans la pâte parce que je n'ai pas précisé qu'il ne fallait pas les mettre. Maintenant, vous avez compris ce qu'est un algorithme et qu'il entraîne des opérations bêtement exécutées pour obtenir un résultat. Mais un algorithme est aujourd'hui un outil formidable car il permet une simplification du monde. Vous le savez, le monde est très compliqué et faire les bons choix est donc une tâche très difficile. L'intérêt d'un algorithme, c'est qu'il permet d'obtenir des résultats mathématiques en s'appuyant sur une représentation simple de la réalité. On fait des calculs parfaitement exacts, mais basés sur une simplification. Bon, je sens que je vous perds. Alors, revenons à nos moteurs de recherche. L'algorithme breveté par Larry Page est bête, comme tous les algorithmes. Mais pour le concevoir, son auteur s'est appuyé sur une vision simplifiée du web. Dans un article paru en 2012, un chercheur de l'Université d'Amsterdam, Bernhard Ryder, analyse l'algorithme PageRank. Selon lui, PageRank implique une vision du web comme un système social. En effet, chaque page de la toile y est déjà hiérarchisée comme un membre d'une société avant même le début d'une recherche. Le résultat d'une recherche n'est plus produit par l'idée initiale de pertinence, portée par les sciences de la recherche d'information. Mais la réponse à une requête est complétée par cette représentation du web comme système social dont les membres sont dotés d'autorité et de statut. Autrement dit, si je cherche des informations sur les présidents français et que je cherche sur Google cette entrée « président français » au pluriel, la première réponse ne va pas être celle d'un site spécialisé sur la question et qui pourra me donner une réponse exhaustive sur tous les présidents de la France, mais le site qui a le plus d'autorité, Élysée.fr, le site de l'actuelle présidence. Cet algorithme va donc favoriser certaines pages car elles bénéficient de plus d'autorité et, par ricochet, l'autorité de ces pages va se renforcer, exactement comme dans un système social où les riches deviennent de plus en plus riches. Dans notre cas, ce sont un petit nombre de sites web qui tentent à figurer systématiquement en tête des réponses à nos recherches et un moteur de recherche qui masque l'immense majorité de ce que contient le web. Mais alors, et nous dans tout ça? Comme vous l'avez compris, le web est classifié avec des algorithmes qui, même s'ils sont bêtes, s'appuient sur une représentation du monde. Or, cette représentation du monde, ou plutôt du web, devient réalité lorsque les algorithmes sont utilisés à l'excès. Dans un monde où les recherches de Google dominent notre quotidien numérique, nous contribuons à renforcer la création d'un web hiérarchisé où l'on ne navigue que sur les sites d'autorité. Pire, étant donné les enjeux financiers, ces algorithmes, autrefois publiés par les chercheurs, sont désormais détenus et protégés par les entreprises qui ne publient plus leurs algorithmes. Les moteurs de recherche fonctionnent donc de manière très opaque. Or, ce sont aujourd'hui nos principales portes d'entrée sur le web. Et cette porte est très orientée. Alors oui, je me répète, mais on a encore le choix. Le choix d'utiliser un autre moteur de recherche que Google, comme par exemple Quant ou DuckDuckGo. Mais attention, après avoir utilisé Google pendant des années, vous êtes habitué à certains résultats et l'usage de ces moteurs alternatifs oblige à changer ses mauvaises habitudes et, par exemple, à être précis dans ses requêtes. Bref, pour résumer la chronique en deux points clés, changer de moteur de recherche et manger des crêpes.